Rouletabille chez Krupp, chapitre 11. Rouletabille s'oriente. Depuis le récit de Nourri, 2 mois s'étaient écoulés. Fulbert, à cette époque, considérait que 5 mois ne se passeraient point sans que les Fritz fussent amenés à s'apercevoir qu'ils avaient été en partie trompés par le Polonais et, par conséquent, sans que celui-ci ne fût sommé de livrer tout le secret de l'invention. Il resterait donc à peu près 3 mois à Rouletabille pour sauver Paris de la terrible Titania. Mais ce laps de temps ne lui était nullement assuré. Depuis 2 mois, des événements avaient pu se passer et le réduire considérablement. Voilà ce qu'il fallait savoir avant tout. Et pour le savoir, il fallait joindre l'un des 3 êtres sur la tête desquels se jouait l'un des plus formidables drames que le monde ait connu, Fulbert, sa fille Nicole, Serge Kamefsky. Pour les joindre, il fallait savoir s'ils habitaient tous 3 dans l'usine ou hors de l'usine. L'endroit précis qu'ils occupaient, l'espace qui les séparait les uns des autres et chacun de Rouletabille. Pour agir hors de l'usine, Rouletabille avait engagé Vladimir. Pour travailler dans l'usine, il s'était adjoint Lacandeur. Ces 2 aides les trouveraient-ils à leur poste? Seconde question. Importante à régler le plus tôt possible, car Rouletabille, évidemment, ne travaillerait pas de la même façon s'il avait 8 jours devant lui ou 2 mois, s'il devait faire tout seul ou s'il devait faire à 3. Il se donna 3 jours pour se renseigner là-dessus. Après cette résolution, la fatigue sembla un instant le dominer. Un demi-sommeil le gagna. Et il laissa tomber sur le plancher sa pipe éteinte. Le bruit qu'elle fit, en tombant, le réveilla tout à fait. Il eut honte de lui-même, se jeta au bas de sa couche, se baissa pour ramasser sa pipe, et, tout à coup, resta en arrêt devant un objet extraordinaire dont la vue avait failli lui arracher une exclamation de joie. Sous le lit, à côté du sien, il y avait un soulier, un énorme soulier. Il y en avait même 2. L'autre était caché par celui qu'il voyait. Et ce soulier suffisait au bonheur de Rouletabille. Ah, la belle chaussure, il la reconnaissait. Le beau cuir, et soigné, et brillant, reluisant, magnifique. Et il y en avait. Certainement, le propriétaire de ce soulier-là devait chausser quelque chose comme du 47, et encore. Le cœur battant, Rouletabille allongea une main tremblante sous le lit numéro 8 et ramena un soulier d'abord, puis d'autre. Quelque temps, il considéra cette énorme paire de ribouilles, sans pouvoir retenir des petits soupirs de satisfaction. « C'est lui, se disait-il, ce ne doit être que lui qui se promène ici dans de si superbes godilles. » Le reporter ne pouvait plus douter que le destin favorable eût fait le compagnon de chambre et de la candeur. Certes, Rouletabille avait un peu aidé la fortune par ses combinaisons, et il était tout à fait normal que fussent réunis dans un même groupe les prisonniers militaires qui travaillaient dans un même atelier. Cependant, les imaginations les plus parfaites ne sont point toujours récompensées par une réalisation aussi mathématique. Et le cœur du jeune homme en fut tout réchauffé. Il eut confiance en un prochain avenir. Il était 12h30 environ, quand il y eut dans le couloir un grand remue-ménage. C'étaient les ouvriers prisonniers qui rentraient. Ce jour du dimanche, les autorités leur accordaient tout l'après-midi pour se délasser, se promener dans leur préau ou encore écrire. Ils pouvaient même jouer aux dominos et aux dames dans la salle commune. Quand l'équipe de son dortoir fit irruption dans la pièce, Rouletabille était étendu sur son lit, les yeux grands ouverts. 8 prisonniers défilèrent devant lui, le saluant d'un bonjour amical tout en retirant leurs vêtements de travail. Les uns s'en furent au lavabo, les autres lui posèrent quelques questions. Il répondit vaguement, affichant une fatigue extrême et fermant les yeux. Il n'avait pas vu la candeur et il ne voulait pas interroger qui que ce soit. Soudain, le plancher du corridor se mit à gémir sous des pas puissants. Le cœur de Rouletabille battit à plus précipité. Le reporter ouvrit les yeux. Lacandeur entra. D'abord, Lacandeur ne vit pas Rouletabille. Il jeta sa capote sur son lit en criant « Ouf ! Fini l'emballage de la semaine !» Et puis il s'affaissa sur le sommier qui craqua. Après quoi, Lacandeur se déchaussa en poussant des « Oh ! Lamentable !» « Qu'est-ce qu'il y a encore, Bichenette ?» demanda l'un des prisonniers. « Bonsoir de bonsoir. Je te défends de m'appeler comme ça. T'entends bien, l'enflé ?»« Tu m'appelles bien l'enflé. moi qui n'ai pas deux sous de lard sous la peau. Je peux bien t'appeler Pichenette, toi qui as un poids à assommer un bœuf. Impossible, mais j'ai un vrai nom qu'il ne faut pas oublier. Je m'appelle René Duval, tout simplement. Ouf, je m'en souvenais plus, grogna en aparté la candeur, qui se redressa après avoir déposé précieusement ses godilles au pied de son lit. En se relevant, il aperçut tout à coup Rouletabille. D'abord, il vacilla. Son grand corps eut une oscillation de pendule, et puis sa bouche s'ouvrit, énorme, puis se referma sur le cri qui ne fut plus entendu que comme un lointain grognement. De ses yeux fixes, Rouletabille foudroyait M. René Duval. « Eh bien, Pichenette, reprit l'enflé. Qu'est-ce qui te prend ?»« Je grogne à l'idée du mauvais déjeuner que nous allons faire, » répondit la candeur en détournant avec effort son regard de celui de Rouletabille. Sûr, ils ne vont pas nous servir des tripes à la mode de Caen. Te faudrait-il aussi une bolée de cidre de Normandie? Hélas! Tiens, là la cloche. Deux coups de sifflet stridents appelaient les hommes à table. Le petit dortoir se vida, seuls restèrent la candeur et Rouletabille. Celui-ci avait refermé les yeux. Quand il les rouvrit, il revit la candeur qui le contemplait dans une immobilité de statue, sans oser dire un mot. Veux-tu ficher le camp déjeuner avec les autres? Je ne te connais pas, moi, monsieur René Duval. La candeur fit demi-tour et quitta la chambre en se heurtant de joie aux meubles. Rouletabille était enfin arrivé. Il y avait 15 jours que la candeur l'attendait, ou plutôt qu'il n'espérait plus le voir arriver. Rouletabille ne l'avait-il pas dit « Je serai avant toi à Essen ?» Le géant ne mangea pas et revint le premier dans le dortoir. Rouletabille lui tourna le dos et feignit un profond sommeil. La candeur poussait des soupirs à attendrir un tigre. Il ne réussit qu'à se faire donner à la dérobade un solide coup de pied dans le ventre par Rouletabille, qui semblait continuer tranquillement son somme. Ce ne fut que vers les 5 heures, quand Rouletabille se fut assuré par lui-même que nul ne pouvait l'entendre, qu'il permit à la candeur de profiter de la solitude où on les avait laissés tous deux pour soulager le trop-plein de son âme aimante, dévouée, mais nullement héroïque. Du reste, le reporter de l'époque eut au fait de mettre fin à un bavardage sentimental et il fit subir à la candeur un interrogatoire très serré qui lui permit d'apprendre le plus possible de choses utiles dans le moindre espace de temps. C'est ainsi qu'il sut que les prisonniers militaires qui travaillaient à l'usine et qui couchaient autrefois dans un camp hors la ville avaient été installés définitivement à l'intérieur des usines dont ils ne franchissaient plus jamais les portes, et cela depuis l'évasion de 2 prisonniers ouvriers qui s'étaient produites quelques mois auparavant. De cette façon, on ne craignait plus aucune fuite ni aucune indiscrétion relative aux usines Krupp, tant que durerait la guerre. Il en était résulté du reste un meilleur traitement pour les prisonniers. Ceux-ci avaient bénéficié des anciens casernements des ouvriers célibataires de l'usine, dont quelques centaines travaillaient maintenant sur le front. Ces locaux affectés en même temps aux prisonniers militaires et aux ouvriers étrangers des nations neutres étaient appelés Arbeiterheime. Prisonniers ouvriers étrangers étaient traités à peu près de même sorte, avec la même surveillance. Partout où il y avait des ouvriers étrangers dans un atelier, il y avait des sentinelles, baïonnettes au canon. Et ces ouvriers étaient aussi souvent fouillés et espionnés que les prisonniers eux-mêmes. Un salaire particulièrement élevé les faisait passer par-dessus ces légers inconvénients. Dans l'Arbeiterheim, où couchaient Rouletabille et la candeur, il y avait 600 ouvriers étrangers et 100 de prisonniers français. Ces derniers travaillaient tous à la fabrication des aciers de commerce ou des machines à coudre, seule besogne qu'ils puissent accepter. Et combien de soldats pour surveiller un Arbeiterheim comme le nôtre? Une 20aine de territoriaux qui reviennent avec nous au poste de notre casernement particulier quand les repas ou le repos nous y appellent et qui nous suivent dans les différents ateliers où nous travaillons sans cesser de nous surveiller, jamais. 20, ce n'est pas beaucoup, oui, Rouletabille. Bah, c'est trop pour ce qu'ils ont à craindre, répliqua la candeur. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse contre eux? Songe qu'ils ont des mitrailleuses et puis, de toute façon, nous serions bouffés en 5 secs, mon vieux. Nous aurions les 400 000 ouvriers Bosch sur le dos avant même que le général qui a la responsabilité de l'ordre ait pris le temps de faire téléphoner à tous les postes et de rassembler sa légion. Ah, on est sûr de nous, si sûr que parfois nous jouissons d'une liberté relative. Vraiment? Mais je croyais que vos gardiens ne vous lâchaient jamais. Dans les ateliers, au moment du travail. Mais ils nous fichent la paix à peu près ici. On peut descendre à la cantine à certaines heures et, en glissant la pièce, on peut prolonger son séjour la nuit à la cantine si on sait s'arranger avec le père Bachstein.
Qu'est-ce que ça, le père Bachstein?
C'est comme ça qu'il l'appelle ici, le père Brick. Avec le Bachstein en allemand veut dire Brick.
T'as déjà dit le voir.
Ah, le Feldwebel qui a la surveillance de l'étage. Parfaitement.
Mais il a l'air terrible.
Oh, il n'en a que l'air. Il se fait des sous, va, avec nous autres.
En voilà un à qui la guerre rapporte.
Tiens, mon vieux, les amoureux se ruinent pour lui.
Les amoureux?
Ben oui, il y en a toujours qui ont besoin d'aller raconter des histoires aux dames. Notre cantinière a deux filles fraîches comme le blé nouveau, qui elles-mêmes ont quelquefois des amis pas trop fanés.
Faire la cour à des demoiselles allemandes? Tu penses que c'est digne, toi, entendre la guerre?
La grandeur?
Ben, s'agit pas de savoir ce que j'en pense, s'agit de savoir ce que pour Saint-Marc, il y a un Feldwebel qui ferme l'œil, et si vous n'êtes pas dans votre plumard à l'heure exacte où la consigne est ronflée.
Ça pourrait peut-être t'intéresser, toi, Rouletabille, même si les demoiselles du cantinier ne t'intéressent pas.
Parce que, écoute bien, il faut pas oublier que tu m'as pas encore rien expliqué, et que je pense bien que nous ne sommes pas venus ici simplement pour...
Il s'arrêta, hésitant, devant un certain froncement de sourcils de Rouletabille. Puis il reprit timidement.
Tu me fais frémir. Qu'est-ce qui va encore se passer ici, mon vieux?
Maintenant que tu y es, t'as tout de même pas l'idée de leur déclarer la guerre, comme au Château Noir,
dis.
Ici, tu sais, ça ne prendrait pas. C'est pas seulement les mitrailleuses. Et il y a des canons partout. Sais-tu ce qu'ils viennent de sortir, en fait, canon, pour la marine?
Un canon de 12 mètres de long, mon vieux.
Rien que ça. Tirant des obus de 1,50 m de haut.
Tu ne vas pas te battre contre des canons, pareil, hein?
Rouletabille, impatienté, se pencha vers le bon Lacandeur.
Tu vas tout savoir. Je suis venu, ou plutôt, nous sommes venus pour nous battre contre un canon de 300 mètres de long.
La candeur sursauta.
Ah, t'as toujours pas perdu l'habitude de te ficher du monde, gémit-il.
La ferme, on vient.
Et Rouletabille se mit à ronfler, et la candeur à crier, à cirer ses chaussures.